Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous que Genève, comme d'autres lieux en Europe, à l'époque fut traversée par des mouvements dits libertaires qui va de 1900 à 1914 ? Il s'agit ici plus précisément du mouvement anarchiste qui donna bien du fil à retordre à la police genevoise. En peu de mots, comment définir ce qu'est l'anarchie et quels sont ses buts ? Quelques adeptes de l'anarchie pensaient que la destruction de la société capitaliste ne pouvait se faire sans violence. Platon lui-même mentionne l'anarchisme dans la République, qu'il identifie à la démocratie directe. Bref. D'autres, sans forcément recourir à la violence, cherchaient à libérer l'individu de toute forme de contrainte, religion, gouvernement, propriété, pour établir une société nouvelle, une fédération de libre association. Malgré l'utopie qui s'en dégage, ces adeptes étaient loin d'être des guignols et étaient présents dans le quotidien pour des publications, des tracts, des opuscules et autres écrits. Même un bimensuel fut imprimé et bilingue à Saint-Gervais en 1900, dont le titre en était « Le réveil anarchiste ». Les anarchistes et leurs militants se réunissaient au club Aurore, à la rue de Coutances. À plein palais se trouvait un autre lieu de rencontre, la salle Hendvik, puis salle Cory, détruite en 1958. Genève, à l'époque, accueille des anarchistes de toute l'Europe, principalement des Italiens, des Espagnols, d'autres encore, et leur vivacité d'esprit nouveau se répandit à la lumière du jour. Une des figures les plus emblématiques du mouvement anarchiste genevois est sans contexte le fondateur même de la revue anarchiste, Luigi Bertoni, tessinois d'origine et grand orateur. Le monde du travail à l'époque se trouve être chaotique et les actions ouvrières plutôt musclées. En 1903, les cheminots se mirent en grève, suivis par les charpentiers. Après une violente harangue de Bertoni devant ses sympathisants, il décide donc d'aller manifester dans les rues de la Berne fédérale. Et c'est là qu'intervient un autre personnage des plus inattendus, qui deviendra une des personnalités au destin hors du commun et qui l'imprimera dès 1922 à toute l'Europe. Il s'agit d'un jeune instituteur de Romagne, Benito Mussolini, socialiste anarchisant convaincu, qui invite à se joindre à Bertoni afin d'organiser la manifestation bernoise. Bertoni refuse. C'est donc Mussolini qui organise la marche. Il fut arrêté et mis en prison, puis expulsé de Berne, le 29 juin 1903. Puis il sera expulsé de Genève. C'est finalement à l'université de Lausanne qu'il trouvera refuge. Une petite anecdote d'ailleurs concernant Mussolini. Il fut invité plus tard en visite privée et il reçut le titre de docteur honoris causa alors qu'il était le duce du fascisme et du peuple italien. Quant à l'anarchie proprement genevoise, elle se dilua lentement dans le chaos de la guerre 14-18, sans pour autant vraiment disparaître. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que de bien curieux personnages faisaient évoluer Genève par leur présence ? Ce personnage, ou en couleur, se nommait Henri Albert Gosse. Pharmacien excentrique, il s'était associé avec Jacques Schweppes, lui aussi pharmacien. Jacques Schweppes, d'ailleurs, donna son nom à cette boisson bien connue de nos jours. Ces hommes vêtus d'une redingote, portant les cheveux longs, alors qu'à l'époque ce n'était pas la mode, circulaient toujours à dos d'âne. Drin-drin était le surnom du baudet qui était connu de tout Genève. Henri Albert Gosse était durant les dernières années du XVIIIe siècle devenu une figure presque légendaire de la ville. Son officine abritait dans la caisse d'un morbier un squelette que Gosse prétendait avoir exhumé lui-même pendant ses études à Paris. Mais, me direz-vous, pourquoi ? Ce pharmacien hurluberlu et atypique mérite une rue à son nom à Champel. Un peu de patience. En 1802, cet homme plutôt fantasque vendit son fonds de commerce et déménagea en Haute-Savoie. et s'installa sur le flanc méridional du Salève, dans le château heptagonal du village de Mornex. Château qui, à cette époque, n'était accessible que par une échelle de corde, ce qui vous donne une idée plus précise du personnage. Là, il se livra à des recherches sur les sciences occultes, aménagea un jardin zoologique et chercha à perfectionner une machine à mouvement perpétuel. Le seul acte de conformisme que Goss semble avoir accompli dans sa vie, ce fut de convoquer dans son château en octobre 1815 six savants genevois respectables pour constituer et fonder la Société suisse d'histoire naturelle. À sa mort, survenue l'année suivante, son fils hérita du bail du château et de la pharmacie. Un expert ecclésiastique identifia le squelette qui avait orné l'officine Goss comme étant celui de Saint-Benoît. Informé de la chose et convoitant ses reliques sacrées, le cardinal de Turin autorisa Louis Goss à devenir propriétaire du château en échange des eaux de Saint-Benoît. Depuis lors, le site au-dessus de Mornex fut baptisé le Mont Goss. Quant à Louis Goss, il figure parmi les créateurs du maintenant défunt Journal de Genève. La presse écrite eut ses heures de gloire à Genève, dont La Voix ouvrière, Le Courrier, La Suisse, Le Journal de Genève, pour ne citer que les plus connus. Quant à l'avenir de la presse et du Schweppes, c'est une autre histoire. Saviez-vous que Plainpalais mérite à lui tout seul plusieurs chroniques, tant les sujets sont vastes et témoins d'innombrables événements qui ont égrené son histoire? Tout le monde connaît les bains des Paquis, Genève-Plage, Baby-Plage, bains d'agrément au bord du lac. Mais pensiez-vous que la zone Plainpalais était riche en bains? Depuis l'Antiquité, on trouva à l'eau des vertus curatives et qui jouissaient dans la population d'un réel engouement. Avec le temps, l'utilisation des cures ont évolué, mais l'attrait de l'eau toujours vivace. Commençons par les bains de Champelle. Ils furent édifiés en 1874 à la rue de la Roseraie. Des bains de vapeur turcs étaient disponibles, ainsi qu'une salle d'inhalation qui avait pour vertu de soigner la goutte, la mélancolie et la stérilité. On préconisa jusqu'en 1943 le chaud et froid actif. Ces bains furent démolis en 1991. Il existait au bout du monde l'établissement hydrothérapique du docteur Taquet, détruit lui aussi. Plainpalais, proprement dit, et ses alentours ne manquaient pas de bains publics. Les bains d'Arves étaient situés à l'extrémité de la rue des Bains actuelle et se trouvaient dans un édifice en bois. Ces bains furent construits en 1849 sur les lieux d'une première construction datant du XVIIIe siècle. Rachetés en 1860 par une sage-femme du nom de Dame Renard, les eaux de cure utilisaient l'eau de l'Arve. Et pour ceux qui connaissent la température de ces eaux, bref, l'établissement disparut finalement pour laisser la place à la construction de l'exposition nationale. L'île des Volontaires, sur le Rhône, accueillait aussi des bains froids, autour de 1870. Ceux-ci, couramment appelés la colle, disparurent à l'ouverture du chantier des forces motrices. Réchauffons un peu l'atmosphère et rendons-nous aux bains chauds. Après la démolition des fortifications, on pouvait se rendre chez Joseph Doll, au boulevard des Terrassiers, actuelle rue Henri Dunant, prendre des bains de fumigation, mais aussi dans l'immeuble Vasseur ou à la Coulouvrenière. Les bains thermaux n'étaient pourtant pas seulement un privilège de la classe fortunée. Charles Bizot construisit pour la Société des bains de Genève en 1903 des bains situés au numéro 8 de la rue de Hesse, entre le boulevard Georges Favon et la rue Général Dufour. Ces bains étaient en fait un immeuble de 6 étages, dont 3 étaient destinés uniquement aux bains et usages prioritaires pour les ouvriers. N'oublions pas qu'à l'époque, il subsistait beaucoup de logements non équipés de salles de bain. Avec salles de repos très bien équipées, ces bains coûtaient 25 centimes, sans serviette. Au fait, les bains n'étaient pas mixtes, mais c'est une autre histoire.
Bientôt, d'autres histoires.